tous réclament des actes plus forts pour lutter contre le changement climatique.
La pollution au plastique, de plus en plus envahissante.
Plus verte la vie. Comment des habitants de notre région, entre Berry, Centre-Val de Loire ou Poitou-Charentes, agissent pour répondre aux défis climatiques. Un podcast du groupe La Nouvelle République.
Être résilient le plus possible.
Pourquoi c'est si compliqué de bien manger ?
Aujourd'hui, il est urgent d'agir.
Circuit court, venir des éco-citoyens.
Bonjour, je suis Claire Nels, journaliste à La Nouvelle République à Blois. Aujourd'hui, je vous emmène à Bracieux, en Loire-et-Cher, à la rencontre de Laurine Paquin-Honoré et Florian Michaud. Les deux trentenaires partagent une éco-colocation. Au cœur de la commune, ils vivent dans une maison de 140 mètres carrés et cultivent un jardin qui leur permet d'être autonomes une bonne partie de l'année. Un vrai havre de paix en accord avec leur philosophie de vie, loin d'un rythme effréné qu'ils ont pu connaître auparavant. Ils nous expliquent le concept de leur éco-colocation.
Alors bonjour, moi c'est Laurine, 33 ans, je viens de Paris. J'ai grandi en banlieue parisienne et maintenant depuis 4 à 5 ans, j'ai quitté ma vie parisienne pour venir ici à Bracieux dans le Loir-et-Cher et commencer à vraiment construire une vie plus alignée à la nature et aussi dans les métiers de l'agriculture.
Et moi c'est Florian, j'ai eu 32 ans, je suis bourguignon d'origine, j'ai vécu à Bruxelles, j'ai travaillé à Bruxelles et j'ai quitté Bruxelles bien avant, enfin un an et demi avant le Covid parce que j'avais besoin de calme, moins de stress et quitter le brouhaha de la ville et j'ai réussi à trouver un travail à distance bien avant tout le monde et j'étais tranquillement à la campagne.
Comment s'est constituée cette éco-colocation ici à Bracieux ?
Eh ben, on s'est justement rencontrés pendant la période du Covid où on s'est retrouvés ensemble dans une ferme qui s'appelait La Belle Fertile vers la Croix-en-Touraine, aux portes d'Amboise. Et la démarche, elle était similaire pour nous deux, c'est-à-dire que la ville ne nous correspondait plus, le rythme de la ville ne nous correspondait plus, qu'on a décidé à ce moment-là de s'orienter plus vers les métiers de l'agriculture, d'aller retrouver du calme, de la sérénité, du temps aussi. Et par la suite, on s'est rencontrés dans cette ferme pour ensuite s'emmener ensemble ici aux portes de Chambord parce qu'un des amis de la ferme où nous étions travaillait, allait devenir le chef des potagers de Chambord.
Ouais, moi, j'ajouterais que c'est ma première colocation. Et je suis arrivé pendant le Covid parce que j'avais décidé de faire du woofing. Donc en gros, on va travailler, on est logé, nourri dans une ferme, soit en bio, soit en permaculture, peu importe. Et donc, j'ai fait 2 semaines, j'avais pris des congés. Donc, à l'époque, je travaillais encore à distance, j'avais pris des congés. Et je suis arrivé le jour du confinement, du premier confinement. Et c'est là où j'ai rencontré Laurine et les autres personnes qui étaient à la ferme. Et en fait, j'avais déjà quitté Bruxelles, du coup, et j'ai voyagé en fait, pendant un an et demi en travaillant en digital nomade. Et en fait, j'avais besoin de retrouver un chez moi. Et en fait, en vivant avec eux pendant ce premier confinement, j'ai trouvé que c'était très agréable de retrouver des gens un peu avec la même manière de penser, même si on est quand même tous un peu différents. Et en fait, on avait envie de créer un peu un projet ensemble de vie. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti direction Chambord, Bracieux en tout cas ici.
Donc la colocation, voilà, 4 ans. Mais a bien évolué sur les allées venues et les personnes qui y ont habité.
Je vous avoue que ce choix de maison n'était pas forcément mon choix personnel préféré, mais on avait la rivière au fond du jardin. Enfin, on a la rivière au fond du jardin. Et en fait, c'était Jennifer qui nous a dit « T'inquiète pas, ça va être nickel, ça va être incroyable. Cette maison, on peut en faire quelque chose. » Et du coup, on a visité 4-5 maisons. Bref, du coup, on a décidé finalement de choisir cette maison qui a été un petit peu retapée sur certaines pièces, etc. Et finalement, on a commencé notre truc. La maison a beaucoup évolué avec le temps et au final, maintenant, elle nous correspond plus ou moins. Franchement, c'est pas mal.
C'est parti pour une visite des lieux. Laurine et Florian nous font découvrir le rez-de-chaussée pour commencer.
Alors voilà, bah là on est dans la cuisine, charmante cuisine avec petite couleur beige, assez spacieuse. Ici, on va avoir nos placards et surtout cet espace garage laverie où on a nos conservations de courges. De tous les produits qu'on sort du jardin, on vient les conserver ici. C'est une pièce qui reste relativement fraîche. Des grands placards avec nos transformations qu'on essaye de faire pour être un maximum autonome pendant l'hiver. Donc, c'est des préparations qui se font principalement l'été. Beaucoup de ratatouille, de sauce tomate, haricots verts aussi en saumure. Là, on a une autre petite pièce que j'utilise de temps en temps à la belle saison en bureau, studio de musique, mais qui du coup, pendant l'hiver, il fait très très froid, Donc on y met nos patates, on y met j'ai récupéré des légumes que je viens stocker ici. Ça, c'est pour faire les purées du bébé qui vient de naître chez mes voisins. Donc, comme je cuisine pas mal, ils m'ont dit oh, tu peux nous faire des purées. Je fais allez, vas-y, on va faire des purées. Nos pieds de tomates cette année qu'on a semés un petit peu tôt, donc on les met dans cette pièce froide
pour les ralentir.
Alors, tranquille, ne poussez pas trop vite. Donc, des beaux espaces. Donc, on a aussi beaucoup de plantes à la maison. Énormément de plantes. Finalement, ça se multiplie très bien. Une petite pièce entre deux, entre le salon qui souvent est fermé parce qu'on y fait les piments et les aubergines, donc on essaie de conserver un maximum la chaleur, et du coup ça fait un petit peu ambiance tropicale parce qu'on a des manguiers, on a des avocatiers, on a des ficus, on a des piments qui nous donnent même des piments là l'hiver, le ficus du Bengale, pareil, des variétés un peu tropicales, et un super bananier.
27 espèces de piments qui arrivent.
Tout à fait. Cette année, grosse diversité sur les piments pour surtout en faire de la semence et pouvoir partager par la suite.
Direction désormais l'étage, pour un petit tour du propriétaire.
Ça, c'était ma première chambre quand je suis arrivé ici. J'adorais le côté boisé de la toiture, les poutres apparentes, le fait que ce soit très blanc et que du coup, c'était très lumineux. J'avais pas mal d'espace aussi pour autant mettre mon bureau de musique que avoir mon lit, etc. Mais le problème de cette chambre, c'est que c'est zéro isolation. Donc le premier hiver que j'ai fait ici, bah, je dormais à 6-7 degrés à peu près. Et là, on a le grenier. Donc grenier qui rassemble un petit peu tout notre matériel de jardin, le stockage. On a de la toile de jute, on a du bois aussi qu'on stocke pour faire des petits feux barbecue l'été.
Ici, le jardin est incontournable. Il est comme la pièce maîtresse du concept d'éco-colocation. 4 poules y ont pris leur quartier. Les 2 colocataires nous dévoilent leur plantation en abondance.
Donc sur le jardin, on a pas mal de planches qu'on change un petit peu chaque année ce qu'on y fait. Là, on a des fèves, par exemple, qu'on a plantées à l'automne dernier qui poussent. Ça va être un environnement aussi de pommes de terre ici. Là, il y a quelques jours, on a planté du chou, des petits pois, des radis, de la laitue, des oignons, de l'ail. Et on a ensuite tout plein de semis comme de la moutarde, des aromatiques, des oignons, des betteraves, des navets, des choux qui vont arriver là prochainement, donc qui sont dans la serre. On va aller voir ça. Donc c'est super pour là vraiment sur une belle production, on arrive à bien nourrir 3-4 personnes en été, ça, facilement. Et après il y a un petit peu plus de temps et un petit peu plus de difficultés sur le potager du printemps et le potager d'automne où il faut un petit peu plus anticiper. Le potager du printemps, ça demande de faire des semis assez tôt dans la saison ou d'avoir des espaces chauds, donc soit dans la maison, soit sur la serre. Donc ça demande un petit peu plus de technique, mais c'est tout à fait possible. Voilà, on avait des poireaux, on avait des choux. Moi j'aime bien les légumes du paresseux. Les légumes du paresseux, c'est un peu tout ce qui va être vivace et périn. Ça va nous demander moins de travail sur le jardin et ça va produire. Il y a des poireaux perpétuels, on a de l'ail rocambole qui se ressème tout seul, on a du chou d'aubenton qui, pareil, c'est des feuilles de chou, ça pousse tout seul. On va avoir certaines plantes aussi comestibles, plus en sauvage, comme nos voisines qui vont nous chercher l'ail des ours ou les mâches sauvages. Donc assez cool aussi sur cet aspect-là. La serre, bah oui, la serre, c'est trop mignon aussi. Bon, elle est toute petite, la serre, mais on arrive quand même à avoir des planches au sol qui nous permettent, là en ce moment, on a semé des radis, du mesclun, de la roquette et des moutardes. Ben, on aime bien tout ce qui est variété asiatique. Ah bah moi après j'adore tout ce qui est les vivaces. On va avoir le fenouil perpétuel qui est tout à fait consommable pour la cuisine. On va avoir la livèche qui est la hache des montagnes, qui est un céleri perpétuel. Donc pareil, ça c'est de la production qui chaque année se fait d'elle-même, se refait toute seule. On n'a rien à faire et c'est hyper abondant. Vraiment, la livèche et le fenouil perpétuel, c'est des plantes qui montent au-dessus du mur. Donc là, le mur, il fait à peu près 1m80. Donc on est sur des plantes qui montent à pleine maturité, à 2m, 2m20, 2m30.
Les topinambours aussi, on a eu des gros topinambours, on savait plus quoi en faire. Ça poussait pareil à 3m de haut, hein, franchement, c'était un délire. Des grandes tiges. Et en aromatique, moi j'ai envie de parler quand même de la perilla.
Ah oui.
Qui est comme le shiso, c'est une aromatique japonaise-coréenne, la perilla coréen. Et avec ça, on peut faire du kimchi, on peut faire des infusions, on peut les faire sécher, etc. Et la première année où on en a fait, on en avait un peu trop. On a mis des semis un peu dehors, devant la fenêtre, avec une explication de ce que c'était. Tout est parti en une heure, je crois. Et donc, j'espère que les gens, maintenant, profitent de la perilla aussi ailleurs à Bracieux ou ailleurs.
On cherche vraiment la diversité et la densification. L'année dernière, le jardin, c'était vraiment une jungle et c'était super parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de choses à consommer différemment, différentes. Et on avait aussi beaucoup de couleurs.
Et en
hauteur. Et beaucoup d'auteurs.
Les courges montaient avec des ficelles partout en haut. Moi, j'étais en Australie l'année dernière. Je suis revenu, j'ai quitté une jungle pour une autre. Donc en plein, je suis arrivé, je crois, le 19 juin. Et c'était une folie. C'était n'importe quoi. J'avais demandé d'avoir un peu des espaces pour les humains, pour pouvoir marcher. Et mes colocataires n'en font qu'à leur tête. Donc des fois, c'est un peu compliqué, mais on avait une sacrée jungle, c'était un délire.
On avait du mal à tailler. Je pense que le sécateur est surtout resté dans notre poche et pas vraiment sorti au jardin.
Beaucoup d'avantages à avoir fait ce type de lieu, que ce soit des avantages financiers, que ce soit des avantages d'intégration dans la localité, que ce soit des avantages d'avoir plus de temps pour soi parce qu'il y a une entraide qui se fait sur le lieu, que ce soit par rapport aux différentes activités, hein, d'une maison, d'un jardin, etc. Et par rapport aussi aux échanges, le fait d'avoir Chambord à côté, d'être relativement proche de Chambord. Moi, j'ai travaillé pour eux. Corentin était le chef des potagers. Donc, on a toujours des échanges. La prochaine personne, c'est Estelle qui travaille aussi à Chambord. Donc, il y a vraiment une intégration locale, une intégration avec les ressources naturelles, une intégration avec même les entreprises du secteur, qui fait que cette colocation, elle vit pleinement avec son environnement de tout type. Qui enlève énormément aussi de pression. On est vraiment plus sur une notion de « Ok, comment on devient autonome ici ?» On n'est pas forcément sur de l'autonomie énergétique. C'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas propriétaire. Donc faire des travaux, c'est plus compliqué. Il faut passer par le propriétaire. L'électricité, pareil, c'est plus compliqué. Mais sur l'alimentaire, du coup, c'est là où c'est plus tranquille de pouvoir faire son potager parce qu'il n'y a pas de pression commerciale par la suite. Et donc, on est vraiment sur une recherche d'autonomie alimentaire. Nous, on a une philosophie un peu ici, c'est qu'on essaye au maximum de vivre comme si on était une famille. Ce que ça entend, c'est un peu de prendre soin les uns des autres, de faire attention aux uns aux autres, de faire attention à notre environnement, d'essayer de s'organiser un maximum sur nos espaces de vie communs, sur nos courses, par exemple, aussi, sur les tâches, que ce soit les tâches au niveau du jardin ou les tâches au niveau de la maison, d'être toujours un peu dans une entraide ou dans une écoute, dans une communication. Il y a un peu cet aspect-là.
C'est une forme de famille sans être une secte ou sans être tous en train de se tenir la main et chanter. Je sais pas, c'est juste une vie commune, ensemble. Pour moi, ça évite par exemple la solitude, d'être chacun son appartement, travailler en ville, ce genre de choses. Là, on peut se retrouver à la campagne, avoir quand même des liens sociaux, aller en ville, mais on est quand même à la campagne. Et donc, éco-colocation, je sais pas. Bon, pour moi, c'est plus une façon de vivre avec des gens différents, comme on pourrait voir avec les personnes âgées qui, au lieu d'aller à une maison de retraite, iraient dans une maison, je sais pas comment on dit. C'est un peu ça, mais pour les jeunes, et le jeune, bon, on est trentenaire, tous, mais ouais, c'est une autre façon de vivre. Après, éco-colocation, on a un jardin potager, on veut travailler un peu avec la terre, on veut manger correctement, on veut pas forcément dépenser super cher. Et du coup, comme on a un beau jardin, et bon, on en profite et on passe surtout des bons étés. L'hiver, c'est un peu plus triste. Mais sinon, c'est ça un peu, pour moi, le but de la colocation.
Comme le disait Florian, il y a de la création de ressources. Et donc, cette création de ressources, forcément, il y en a trop. Il y a cette idée un peu d'abondance aussi à travers la maison qui fait que du coup, on s'intègre plus localement ici. On va avoir beaucoup de relations avec les restaurants, beaucoup de relations avec nos voisins, beaucoup de relations avec vraiment un aspect intergénérationnel. Moi, la plupart de mes potes ici, ils ont tous 70 ans, il faut le savoir. Et c'est super parce que du coup, il y a des échanges sur les œufs, ils échangent des choses. J'ai un couple d'amis, pareil, 65 ans, Monique et François, petite dédicace, qui sont des chasseurs-cueilleurs dans le coin et qui du coup, là, me filent des pots de noisettes. Par exemple, ou de l'ail des ours. Elle a ses spots d'ail des ours et vraiment, ils connaissent tous les endroits. Donc, petit à petit, en fait, l'éco-colocation, à travers les ressources que l'on fait ici, s'intègre en fait dans l'environnement local, avec les restaurants ou avec les voisins. Et là, dernièrement, on a aussi ouvert une grainothèque à Bracieux. Donc, dans l'idée de récolter ses propres semences et de les échanger avec ses voisins, avec les familles. Et donc, hyper content que la maison puisse participer en tant que fournisseur de graines pour la ville, parce que là, notre impact, il est de plus en plus rayonnant.
Ouais, la grainothèque, c'est pas nous, notre idée. Hein. C'est Bracieux, c'est la mairie qui gère ça. Hein. Mais on participe.
Puis on a appris sur le tas. Disons que vraiment, la ferme, il y a 4 ans, pendant la période du Covid, a été notre premier apprentissage. Et ensuite, ça a vraiment été, ok, on est sur le lieu,
On a un matériel semi-professionnel avec une superbe irrigation, une petite serre, ce genre de choses. Comment on fait en sorte de faire les choses bien? Comment on essaye au maximum de bien cultiver
et... Comment faire bien et surtout sans la pression de devoir vendre ou être productif? Alors qu'ici, on ralentit le temps un peu quand même. Enfin, moi, en tout cas, on est un peu des points de vue différents avec Laurine. Moi, c'est vraiment ralentir le temps et essayer d'être moins stressé, quoi. C'est plus ça, de comprendre un peu qui on est, etc. Donc, est-ce qu'il y a des modèles comme ça qui aident les gens à vivre mieux? Je ne sais pas.
Il y a quelque chose que j'aimerais dire par rapport à ce que j'ai vécu, à quitter la banlieue et arriver ici. C'est qu'il y a réellement des opportunités dans le monde rural et que ça ferait beaucoup de bien à nos villages, à nos générations et à nos anciens que nos générations sortent un petit peu plus de la ville pour y retrouver de la sérénité, y retrouver de la nature, y retrouver même des questionnements sur ce que l'on aime faire ou ce que l'on aime être. Parce qu'il y a une notion qui aujourd'hui est évidente, c'est que le monde du travail et le monde du salariat, d'une certaine manière, est extrêmement chronophage et ne nous permet pas de nous trouver en tant qu'individu. Et que ces ralentissements offerts par ce type de village ou ce genre de vie nous permet réellement d'aller nous découvrir et de revenir plus, comment dire, de nous retrouver en tant qu'individu, d'apprendre à nous connaître en tant qu'individu et de nous épanouir et de nous rendre heureux. Et il y a vraiment eu une intégration ici qui a été top et qui l'est de plus en plus. D'ailleurs, je suis actif auprès de la mairie, je suis actif auprès des restaurants, je suis actif auprès des événements. C'est-à-dire que là, je vais faire de la harpe pendant toute la belle saison pour les vernissages artistiques qui vont se passer dans la petite halle. Il y a plein de choses à faire et ils étaient hyper friands de voir des jeunes arriver et de s'intégrer. Et après, voilà, il y a les ressources, il y a le jardin qui amène un autre aspect plus agricole à notre intégration. Donc franchement, magnifique.
Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.